pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Jean Pontat est né à Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans la Manche, en 1638. Touché par la vocation, il est d'abord vicaire dans une paroisse parisienne. Il se lance ensuite dans l'étude du droit canon et du droit civil et devient docteur en droit de la faculté de Paris. C'est alors qu'il se lie d'amitié avec Bossuet. Sur les conseils de ce dernier, il écrit de nombreux ouvrages de casuistique ou études de cas, ayant trait à la morale religieuse, mais touchant aussi le droit civil. Le plus fameux de ses ouvrages est son dictionnaire des cas de conscience ou décision des plus considérables difficultés touchant la morale et la discipline ecclésiastique. Il est publié pour la première fois en 1715. Il ressemble par bien des aspects au célèbre De Matrimonio, écrit environ un siècle auparavant en Espagne par le jésuite Sanchez, qui, au prétexte de répondre aux questions concrètes que peuvent se poser les jeunes mariés, est en réalité un savoureux catalogue des pratiques sexuelles les plus imaginatives, apprécié par des générations de séminaristes comme une sorte de penthouse de la Renaissance. Le dictionnaire de Pontat liste aussi des situations et les présente par ordre alphabétique. En voici quelques exemples. Firmin, rendant de fréquentes visites à Marie, sa fiancée, la caresse souvent en lui touchant le visage, les mains et les bras et en lui donnant même des baisers avec quelques délectations de peu de durée, mais sans avoir aucune intention criminelle. Peut-on dire qu'il pêche mortellement en cela ? Éloi est tombé dans un adultère secret. Est-il déchu par là du droit de demander le devoir conjugal à sa femme, à qui son péché est inconnu, surtout lorsqu'il l'a expié par la pénitence? Jean Pontat achève son long ministère comme sous-pénitencier de Notre-Dame de Paris. Il meurt, à Paris également, en 1728. Son œuvre est une source précieuse pour les historiens des mœurs et du droit au XVIIIe siècle. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, nous parlons également de casuistique. Quatre cas à votre appréciation, mais qui ne relèvent pas du droit canon ni de la morale chrétienne, mais bien de la loi, de la République, du droit pénal pour la plupart. Ils sont racontés par des hommes et des femmes de loi qui disent comment ces cas les ont marqués, fait douter, changer, réfléchir, et nous aussi au passage, j'espère, en tout cas jusqu'à 14h, dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, étude de cas par Jérôme Sandler.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Isabelle et j'ai été plusieurs années juge d'instruction, juge des libertés et de la détention et aujourd'hui présidente de cour d'assises. Ce que je souhaiterais vous faire partager, c'est une jeune fille étudiante est retrouvée un matin, assassinée dans un bosquet. Son corps a été violé. Ses parents, bien sûr, sont effondrés. Une enquête est diligentée. Différents garçons qui avaient pu la connaître sont interrogés, sont même gardés à vue. Mais aucun élément ne permet de confondre l'un d'entre eux. Donc l'information dure plusieurs années, mais impossibilité d'identifier un coupable. Donc au bout de quelques années, le dossier est classé. Et depuis quelques années, les gendarmes exploitent les traces ADN qu'ils conservent dans des fichiers. Il se trouve qu'un individu déjà condamné pour viol est identifié par son ADN résidant sur une trace retrouvée sur un des effets personnels de la jeune fille. Et cela, 17 ans après les faits. Les gendarmes vont interpeller cet individu. Ils se rendent compte à ce moment-là qu'il est invalide, il est sur un fauteuil roulant, car 8 ans auparavant, il a été victime d'un accident cardiovasculaire. Il est interpellé, présenté au juge d'instruction qui le met en examen, et puis devant moi qui suis à l'époque, donc juge des libertés et de la détention. Lorsqu'il arrive devant moi, il dit qu'il ne se souvient de rien. Il a du mal à s'exprimer avec des difficultés d'élocution. Néanmoins, je sais que je n'ai pas le choix. Les faits qui lui sont reprochés sont d'une telle gravité que le mandat de dépôt s'impose dans une affaire comme celle-là. Son avocat plaide bien sûr son état de santé. Bon, finalement, il part tout de même en détention dans une maison d'arrêt, donc qui peut l'accueillir. Une année s'écoule. Pendant ce temps-là, le juge d'instruction continue les investigations, essaye de retrouver éventuellement des témoins qui pourraient corroborer cet élément donc, qui a été découvert. Il interroge bien sûr le mis en examen qui n'en dit pas plus. Et au bout d'un an, je dois statuer de nouveau pour prolonger sa détention provisoire. Puisque en matière criminelle, un mandat de dépôt est valable un an. Ensuite, il doit être prolongé ou non à l'issue d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention. Et le jour du débat, les policiers qui escortent ce détenu viennent me voir et me disent que ils ne pourront pas l'amener à mon bureau car il est dans un lit. Ce qui veut dire que son état s'est dégradé, il est complètement impotent. Et mon bureau était situé au troisième étage, donc impossibilité de venir jusque-là. Donc nous avons dû organiser le débat contradictoire dans une salle d'audience au rez-de-chaussée. Et je n'oublierai jamais l'image de ce lit, franchir la porte de la salle d'audience, s'approcher de moi. J'ai tout juste aperçu une silhouette. J'ai procédé au débat contradictoire en donnant la parole au procureur de la République, à l'avocat, en lui donnant la parole en dernier. Il n'a rien dit. Et je me suis retirée pour délibérer. Alors là encore, gravité des faits exceptionnels, un trouble à l'ordre public persistant. Vous savez, ça fait partie des critères du placement et du maintien en détention provisoire. Une jeune fille de 20 ans assassinée, violée, c'est un des actes les plus graves qui puissent être commis dans notre société. Donc là encore, je me suis dit que je n'avais pas le choix et que je devais le maintenir en détention provisoire. Il n'empêche que ce jour-là, peut-être pour une des seules fois dans mes 30 ans de carrière, je me suis dit que j'aurais préféré peut-être exercer un autre métier. Certes, la décision était justifiée, mais je n'ai pu m'empêcher de me demander quel sens la peine avait pour cet homme ce jour-là. Donc ma mission s'est arrêtée là. Ensuite, j'ai été d'ailleurs nommée à un autre poste, mais j'ai su qu'il avait été condamné par une cour d'assises, donc à la réclusion criminelle à perpétuité. La loi est faite par les hommes pour les hommes, donc l'humanité est au cœur de la loi, l'application de la loi. C'est pourquoi je pense que nous ne pouvons pas nous empêcher de nous poser des questions, de ne pas dormir toujours très tranquillement, même si nos décisions sont juridiquement fondées et humainement acceptables, puisqu'il y avait le décès d'une jeune fille dans des conditions atroces. Mais la réalité qui s'offrait à moi ce jour-là était terrible aussi.
J'avais été saisi il y a un peu plus de 2 ans maintenant par une famille dont je connaissais celui qui allait devenir mon client pour avoir été un camarade de jeu, notamment lorsque nous faisions des tournois de football ensemble. C'était un garçon qu'on qualifierait de beau gosse, très souriant, d'une gentillesse incomparable, qui avait beaucoup de charisme. sa famille m'avait contacté, m'expliquant qu'il était vraisemblablement victime de discrimination. Ils m'ont même parlé d'islamophobie. Et que suite à un de ses objectifs, qui était de monter un business qui s'adressait à la communauté musulmane, mais pas qu'à la communauté musulmane, à la terre entière, il avait été placé en hôpital psychiatrique. Le souvenir que j'avais de ce jeune homme, que j'avais un peu perdu de vue, c'était absolument pas l'image d'un jeune homme qui avait perdu la tête ou la raison. J'étais triste de savoir, entre les mains de médecins et sous l'emprise de cachets, d'anxiolytiques très puissants. Et en même temps, j'étais triste de voir sa famille que je connaissais s'inquiéter. Il était père de famille, il avait une femme. Et donc on m'a demandé d'intervenir. Et il était donc interné dans un hôpital psychiatrique dont je tairai le nom. Je me suis rendu auprès de cet hôpital psychiatrique et j'ai demandé à le voir. J'insiste auprès du personnel de cet établissement pour accéder au dossier. Je me rends compte qu'on lui reproche des délires paranoïaques, on lui reproche quelquefois une certaine forme de mutisme, pas vraiment de la mélancolie, mais quelque chose qui y ressemble. Et là, je me dis que j'ai peut-être loupé un épisode et j'essaye de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de ce jeune homme, tout en étant convaincu que sa place n'était pas à l'hôpital psychiatrique. Je prépare cette audience devant le juge des libertés et des détentions qui se déroule au sein même de l'établissement. Et je parle avec quelqu'un qui est manifestement sous l'emprise de médicaments. Il a la bouche pâteuse, il parle avec difficulté, mais pour autant, son discours me paraît parfaitement clair, parfaitement cohérent. Il a l'air d'avoir parfaitement conscience de la situation dans laquelle il est. Et ce que disent les rapports qui sont établis par les médecins à ce moment-là, c'est que une sortie est tout à fait envisageable pour lui. Donc je vais plaider le dossier et le juge des libertés de la détention finit par lui dire qu'il sortirait 3 jours après l'audience, le temps pour le juge des libertés de la détention de rédiger une décision. Et donc à ce moment-là, moi je suis satisfait et je me dis que bon, j'ai accompli mon travail, je l'ai accompagné, j'ai aidé sa famille. Je retourne donc après cette audience dans la salle où je peux communiquer avec lui. Et là en fait je revois un autre homme. Je vois quelqu'un qui part dans un délire paranoïaque. Nous nous sommes pris la tête, entre guillemets. Il y a eu un vrai échange très très compliqué avec lui parce que finalement, il me reprochait de ne pas avoir permis qu'il sorte immédiatement après l'audience. Ce à quoi je lui avais répondu que, au pire, ça durerait 2 jours. Je sais que c'est compliqué dans ces conditions, que je sais qu'il a une femme et des enfants, mais que je ne pouvais pas faire autrement. Un mois et demi, 2 mois. Après cette audience, je croisais un ami commun qui m'a dit « Tu sais, en fait, ton ami, ton client, il s'est jeté avec sa femme, la main dans la main, d'un pont d'une hauteur de 37 mètres. » Et bien évidemment, il n'en est pas revenu. Ça a été un choc pour moi parce que je me rappelais la force et la vigueur que j'avais voulu mettre dans la défense de cette personne qui se mentait à lui-même, qui avait menti à son avocat, en tout cas jusqu'à l'audience, et dont la famille ne voulait pas croire, en tout cas au départ, qu'il était souffrant. Et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, lorsqu'on m'appelle, et ça m'arrive, pour défendre des personnes qui sont hospitalisées d'office, l'avocat que je suis, qui aime convaincre, qui aime se dire que c'est par sa plaidoirie qu'il a réussi à être efficace, qu'il a réussi à libérer quelqu'un, fait preuve de beaucoup de modestie, parce que j'ai peur que mon travail n'aboutisse à la mort de quelqu'un.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Philippe et je suis juge aux affaires familiales en région parisienne. Tout débute de manière heureuse, un petit peu comme une histoire d'amour. Un jeune homme brillant qui porte un nom qui sonne bien le sud-ouest, Toulouse, la montagne, la Garonne. Il parle parfaitement l'anglais, il a appris l'arabe et il veut parfaire ses études en langue arabe. Donc il part au Moyen-Orient, il est le fils unique d'une famille apparemment heureuse, unie. Au Moyen-Orient, il rencontre sa bien-aimée. C'est le début d'un amour qui va se concrétiser par un mariage en 2008. En 2009, il a un premier enfant. En 2010, il lui fait un deuxième enfant. En 2011, un troisième enfant. Et en 2012, quatrième enfant. Il faut dire quand même qu'il a toujours dit qu'il l'avait aimée dès le début parce qu'elle avait été dans son village au Moyen-Orient la première femme à porter la burqa. Ils travaillent tous les deux. Lui travaille dans un institut chargé de développer la langue arabe. Et puis, il travaille pour les hommes. Et elle est professeure de langue arabe pour les femmes. L'histoire commence un peu à s'ébrécher quand l'une des petites filles a un problème cardiaque. Donc, ils doivent rentrer et quitter le Proche-Orient parce qu'il n'y a pas les moyens médicaux pour soigner leur enfant. Et ils rentrent du côté de la Garonne. Le jeune homme ne trouve pas de travail et grâce à des contacts, il va réussir à trouver un emploi en région parisienne. Et le couple va finalement partir avec les quatre enfants et monsieur va trouver donc un emploi dans un institut qui est chargé de sciences islamiques et de développement de la langue arabe. Et il est chargé d'écrire des manuels scolaires pour les enfants. Quand on lit le contrat de travail de ce jeune homme, on est un petit peu interloqué dans la mesure où une clause du contrat de travail mentionne « Il doit observer la plus grande discrétion concernant les activités de l'organisme dans lequel il travaille. À défaut de discrétion, il encourt un licenciement pour faute lourde. » Elle ne travaille pas. Et puis malheureusement pour eux, en France, l'histoire se lézarde un petit peu. Il commence à devenir violent. Il détruit tout ce qu'il y a dans l'appartement. Il prend des couteaux, il coupe les vêtements. Et puis il lui dit, il faut qu'on rentre dans notre pays, qui n'est pas la France, pour lui, dit-il, qui est ce pays du Moyen-Orient, bien mystérieux, où finalement les femmes n'ont pas vraiment de droits. Elle qui porte toujours la burqa, elle commence à sentir un petit peu le vent de la liberté et que finalement elle est comme un oiseau enfermé dans une cage. Et elle veut pas rentrer au Moyen-Orient où se trouve sa famille. Donc de plus en plus, il devient violent avec elle. Et puis arrive ce qui arrive, il la frappe durement. Et un matin, elle part pour faire des courses et quand elle revient, il a disparu et les quatre enfants avec lui. L'épouse est complètement perdue. Elle va aller déposer plainte contre lui pour les coups et blessures dont elle est victime à de multiples reprises. Déposer plainte également pour enlèvement d'enfants. Et puis également, le père de l'époux, il a téléphoné également à la police et il a indiqué que son petit-fils, qui est le premier enfant des quatre, quand il vient le voir à la maison et qu'il y a la radio, la musique, il se met à pleurer, à hurler, à se boucher les oreilles et à dire « Ah, c'est impur, c'est la musique du monde occidental, il faut arrêter ». Alors une enquête est faite. Quelques temps après, on arrête le père à l'aéroport de Genève. Et quand il va venir donc dans mon bureau, il est menotté. Donc là, dans mon cabinet, il y a le juge, donc moi-même, ma greffière. Il y a le père avec un avocat, deux policiers. Il y a la mère avec son avocate. Et là, je dois prendre une mesure pour préserver les enfants et faire des mesures provisoires dans l'attente du jugement de divorce. En entendant l'épouse, on voit que finalement, cette femme-là, qui est heureuse d'avoir retrouvé ses enfants, elle a fait beaucoup de cheminement dans sa tête depuis le Moyen-Orient et elle a entreaperçu ce que pouvait être la vie d'une femme libre. Après avoir entendu l'épouse, j'ai entendu l'époux et je me suis rendu compte que ce dernier était comme possédé, membre d'une secte qui nous récitait des sourates du Coran, qui m'expliquait que finalement, il était tout à fait normal que ces filles ne jouent pas avec des poupées parce que les poupées, les figurines, c'était impur, qu'il n'avait pas voulu enlever ses enfants et qu'il avait renvoyé les enfants chez les grands-parents maternels parce que sa femme, finalement, n'était pas une bonne musulmane et que les grands-parents maternels étaient très croyants et très pieux et eux pourraient s'occuper des enfants. Et donc, après avoir entendu tout le monde, il a fallu rendre une décision. La décision, elle a été de confier les enfants à la maman, d'attribuer à la maman l'autorité parentale à titre exclusif. Ça ne veut pas dire que le père est privé de ses droits de papa. Ce jeune homme a été condamné à une peine de prison relativement lourde, il me semble de 1 an de prison. J'ai eu effectivement un petit état d'âme en me disant est-ce que le papa peut voir les enfants parce qu'il y a des structures pour emmener les enfants en prison ? Et c'est vrai que dans l'attente, j'ai réservé le droit de visite du père. Ça veut dire que le père ne voit pas les enfants pendant une période déterminée. L'épouse n'est pas venue et lui nous a indiqué, mais mon épouse, elle ne vient pas, mais j'ai toujours des contacts avec elle, elle-même, et on va refaire notre vie, on repartira au Moyen-Orient, dans le pays des croyants. En tant que juge et en tant que citoyen, je me suis dit que quelque part, on est quelque part mal barré parce que malheureusement, on a de plus en plus de cas de gens un peu paumés qui finalement ont appris le Coran par cœur ou le Coran pour les nuls et qui finalement se trompent entre guillemets de combat. Je me rends compte que c'est toujours les hommes qui sont violents, c'est toujours les femmes qui trinquent. Et je trouve ça quand même terrible, terrible d'autant plus que je suis impliqué dans la défense du droit d'asile et que avec cette ambiance délétère, on en arrive à développer des pensées sordides. Et malheureusement, il y a des gens qui viennent de pays en guerre qu'on ne veut pas accueillir. Voilà.
Charles Prats, et à l'époque de cette histoire, j'étais magistrat à la délégation nationale à la lutte contre la fraude au ministère du Budget à Bercy. Alors, donc c'était en 2008, un peu avant qu'on commence vraiment à reparler de toutes les affaires d'évasion fiscale et de fraude fiscale. À l'époque, je suis approché par une de mes connaissances qui souhaite me présenter ce qu'on appelle dans le jargon douanier, puisque je suis un ancien inspecteur des douanes, un aviseur, c'est-à-dire un indicateur, en l'espèce une indicatrice. Et donc le contact se fait et cette personne souhaite nous proposer au ministère des Finances de nous donner, évidemment contre rémunération, une liste des informations sur plusieurs dizaines de milliers de comptes de Français cachés en Suisse. Et donc à l'époque, nous sommes en 2008-2009, et cette informatrice nous propose, si je me rappelle bien, 30 000 comptes. Ce qui est énorme, hein. Vous rendez compte, c'est 10 fois plus que l'affaire de la banque HSBC aujourd'hui, hein, ou que l'affaire de la banque UBS. Donc bien évidemment, je regarde ça de très près, je fais les premiers tests de crédibilité, puis je m'assure un petit peu de la crédibilité de l'informateur. On commence à travailler sur le dispositif à mettre en place, et à ce moment-là, nous sommes à l'été 2009, le ministre du budget de l'époque, Eric Woerth, fait une sortie dans la presse et explique qu'il détient une liste de 3000 noms de Français qui ont des comptes cachés en Suisse. C'était la fameuse liste HSBC, la liste Falciani, qui n'était pas du tout celle sur laquelle moi je travaillais avec mon indicateur. Et là, la manière dont finalement a été mise sur la place publique que le ministère du budget avait un informateur qui évidemment fera l'objet d'une traque médiatique. Et quelques semaines après, on saura qui c'est. Le nom d'Hervé Falciani sortira. Hervé Falciani, que je connais par ailleurs, hein, je l'ai rencontré après, à sa vie quand même, qui est, il faut le dire honnêtement, hein, il a une vie pourrie maintenant, parce qu'il ne peut plus sortir sans protection, enfin sa famille n'a plus de vie. La vie de cet homme, quelque part, a été brisée par le fait qu'on sache qu'il avait donné ses informations et que le dossier HSBC ne soit pas traité discrètement, mais soit traité comme ça de manière médiatique, la vie de l'informateur a été brisée. Et à ce moment-là, bien sûr, moi, de mon côté, mon informatrice était totalement paniquée par la manière dont les choses se passaient, parce qu'elle se demandait d'ailleurs si ce n'était pas elle qui avait été mise sur la place publique, ce n'était bien sûr pas le cas, puisque nous avions décidé de protéger totalement son identité. Personne ne le savait dans la hiérarchie, aucun ministre n'était au courant que je travaillais là-dessus. Du coup, décision a été prise à ce moment-là d'arrêter totalement. Alors c'est vrai que c'est un cas de conscience, parce que quand vous avez un indicateur qui vous propose 30 000 comptes bancaires cachés en Suisse de Français qui font de l'évasion fiscale, ce sont des dizaines de milliards d'euros que vous pouvez potentiellement récupérer pour la France, hein, qui se sont évadés. Et vous devez mettre ça en balance avec l'avis de votre indicateur. Et là, j'ai pris la décision de tout arrêter pour protéger l'indicateur, sa famille, ses enfants, son mari, etc. Ma conscience, moi, m'avait dicté de dire on arrête tout, même si c'était des dizaines de milliards d'euros qui nous échappaient.
Encore, c'était Les Pieds sur Terre, étude de cas par Jérôme Sandelard, réalisé par Alexandra Malka, au mixage Claire Levasseur et l'attachée de production, c'est bien sûr Sandrine Chaperon. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, page Facebook et compte Twitter. Vous pouvez ainsi partager et commenter nos émissions. Vous pouvez également nous adresser des courriels sur le site de France Culture à la page Les Pieds sur Terre ou nous envoyer ou poster des commentaires qui sont encore ouverts. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast. Vous pourrez ainsi écouter Les Pieds sur Terre où vous voulez, quand vous voulez.